C'est principalement les sciences correspondantes.
Mais c'est le fait même de ce qui est et de ce qui existe. Alors il vaut mieux dire ontique qu'ontologique. Parce que l'ontologie, c'est la science de l'être, de l'ontos. Alors il vaut mieux envoyer là la discussion. Et alors l'autre correction que j'ai faite, c'est au sujet de la transposition, vous voyez, pour l'étude de la création, le ciel, l'homme, l'univers accessible. Hein. Alors là, on a vu avec le nouveau tableau, semble-t-il, ce que c'est que l'anthropologie céleste et ce que c'est que l'anthropologie cosmique. Vous voyez, c'est, je pense, vous voyez, comme présentation, c'est un peu, mais enfin, c'est un peu par perfectionnisme que je vous fais changer la feuille, parce que je pense que ça modifie grand chose en un sens. Enfin, je préfère que vous ayez des dispositions plutôt que. Alors, nous allons aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, étudier les attributs de Dieu. Alors, quelquefois on peut parler des vertus de Dieu, quelquefois on peut parler des qualités de Dieu, et tout ça est synonyme. En général, les théologiens parlent des attributs de Dieu, c'est pas dit que ce soit la meilleure façon, mais enfin, comme c'est classique, j'ai pris ce mot. Mais, si vous voulez, ce qui correspond à la chose dans le Nouveau Testament, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, lorsque l'apôtre dit aux chrétiens, vous êtes une race élue, vous êtes un peuple saint, une nation sainte, pour annoncer les, alors le terme grec c'est aretai, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous pouvez prendre donc 1 Pierre 2, 9, hein. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer. Alors dans le grec, il y a les aretai, de celui qui vous a pris des ténèbres à son admirable lumière. Alors le mot grec, n'est pas les arrêtas. Et le mot grec arrêté, c'est un mot qu'on trouve très rarement. Je crois même, et je vous l'affirme pas absolument, vous voyez, et je crois que c'est la seule fois où ce mot est employé dans le Nouveau Testament. Et alors, on peut traduire une des meilleures façons peut-être de traduire, ce serait de traduire les traits de caractère. Les traits de caractère. Ou on pourrait dire aussi, ça revient au même, les caractéristiques. Hein, le mot caractéristique vient du mot caractère. Les caractéristiques. Alors, je voulais bien sûr que l'on dise les attributs, les vertus, les qualités, etc. Moi, je suis un peu ennuyé de la traduction la plus courante actuellement, en tout cas, selon l'Église, la Bible de la Colombe, dit les vertus. Or, les vertus, moi, je ne crois pas que ce soit un mot adéquat. Je préférerais qu'on ait mis là que vous annonciez les traits de caractère, ou bien les caractéristiques, à la limite même des attributs, mais les vertus. Le mot vertu en français a une qualification uniquement morale. Les vertus, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est etc. Voyez, c'est d'ordre moral. Or, il ne s'agit pas seulement des attributs, disons, moraux de Dieu. Et c'est pour ça que je suis un peu ennuyé qu'on ait traduit arétail par vertu. J'aurais préféré, vous dire encore qu'on mette attribut, ou les qualités de Dieu, ou les traits de caractère de Dieu. Enfin, même si nous n'avons pas le mot français adéquat pour bien rendre le mot grec arrêté, pour que je vienne arrêter, tant pis, vous voyez, je pense, ce que signifie ce mot, ce que signifie la chose. Quels sont, au fond, les traits de caractère de Dieu? Alors, nous allons donc parler maintenant, puisque nous faut rentrer dans le langage théologique. Nous allons parler donc des attributs de Dieu. Bien entendu, quand on parle des attributs de Dieu, il faut prendre garde à une chose, c'est que ce sont des attributs que l'on peut, c'est le cas d'employer le verbe, attribuer au
chrétien à Dieu, au Dieu un, car chacune des personnes de la Trinité, autrement dit, comme nous disons par exemple, Dieu est tout puissant. Bon, c'est juste, mais il est juste de dire aussi que chacune des personnes de la Trinité, le Père est tout puissant, le Fils est tout puissant, l'Esprit Saint est tout puissant. Donc, c'est la première chose à laquelle il faut prendre garde. Et l'autre chose, c'est que tout cela va avec ce que les théologiens appellent, on appelait ça à partir du mot latin simplicita, la simplicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité de Dieu? Ça veut dire que nous sommes à la fois composés de parties. Autrement dit, on peut me couper un bras ou une jambe, à la limite, mais ça serait beaucoup plus grand, on peut me couper la tête. Mais je veux dire, si on me coupe une jambe, ou si on me coupe un bras, je ne dis pas monsieur, si on me coupe la tête, eh bien, parfois, je peux continuer à vivre. Je peux continuer à vivre. Donc, si vous voulez, une partie peut être retranchée de moi, sans que l'on porte atteinte à mon moi, à mon jeu. Tandis que Dieu est simple. C'est-à-dire que Dieu n'est pas divisé, Dieu n'est pas divisable, Dieu n'est pas composite, Dieu n'est pas composé. C'est ça la simplicité de Dieu. Donc, faisons attention, nous sommes obligés de distinguer les attributs de Dieu. Nous allons parler par exemple de la bonté de Dieu ou de la puissance de Dieu. Mais en réalité, il faut toujours garder à l'esprit la simplicité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tout ensemble, tous ses attributs. Il est tout ensemble, toutes les qualités ou toutes les vertus que l'on va lui donner. Donc, rappelez-vous ces deux points. Hein. D'abord, tout ce qu'on dit de Dieu, on peut le dire de Dieu dans son unité, comme de chaque personne en Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est ma première remarque. Et deuxième remarque, n'oubliez pas que c'est toujours dangereux de parler des attributs de Dieu comme si ces attributs de Dieu ne s'accordaient pas avec la simplicité de Dieu. Autrement dit, les attributs ne divisent pas Dieu, les attributs ne font pas de Dieu un être composite. Dieu est saint, il est vraiment un. Et chaque attribut, n'est-ce pas, c'est ma dernière remarque, ma troisième dernière remarque, chaque attribut identifie Dieu tout entier. Par exemple, Dieu est lumière, Dieu est amour. Dieu est esprit, Dieu est justice, Dieu est sainteté. Donc vous voyez, trois choses donc auxquelles il faut bien prendre garde. Une en rapport Dieu et la Trinité, une en rapport avec la simplicité de Dieu, et enfin, chaque attribut qui identifie Dieu tout entier. Pourquoi cependant est-il bon de distinguer les attributs de Dieu? C'est parce que cela nous aide à, je ne vais pas employer bien sûr comprendre, à intelliger quelque chose de la richesse de son être. Autrement dit, c'est à nous qu'il est utile, c'est pour nous qu'il est bon de distinguer les attributs de Dieu. En Dieu, il n'y a point ces distinctions. Mais la révélation de Dieu nous décrit des arrêtats, des traits de caractère différents de Dieu pour que nous ayons, nous, une certaine idée, une meilleure idée de Dieu, de l'être de Dieu. Donc, en Dieu, tous ces attributs sont vraiment un, mais pour nous, Dieu veut bien dans sa révélation distinguer
entre ces attributs.
Les pères des arts et les grands docteurs du Moyen-Âge ensuite, et les réformateurs, disons en gros tous les théologiens, ont distingué quand on parle de Dieu, et qu'on parle en particulier des attributs de Dieu, deux voies qu'ils ont appelées voies bénigneuses, une voie béninante et une voie de négation. En parlant des attributs de Dieu, nous sommes obligés de suivre ces deux voies ensemble. Vous me direz, c'est pas possible, quand on suit une voie, c'est des affaires de penser. Eh bien, quand on parle de Dieu, il faut suivre deux voies. Ou plutôt, il faut compléter la voie d'imminence par la voie de négation et la voie de négation par la voie d'imminence. Alors, parlons d'abord un peu de la voie d'imminence ou la voie d'excellence. La voie d'imminence ou d'excellence, cela signifie que quand nous attribuons à Dieu, ou quand la Bible attribue à Dieu tel arrêté, tel trait de caractère, nous sommes tenus de rejeter toute limitation et donc de porter l'attribut dont nous parlons, le trait de caractère dont nous parlons, à l'absolu. Par exemple, si je dis d'une personne humaine, oh, c'est vraiment quelqu'un de bon. Ou bien si je dis, oh, c'est vraiment quelqu'un de sage. Et si je dis la même chose de Dieu. Dieu est quelqu'un de bon. Dieu est quelqu'un de sage, vous singulier. Si je dis de quelqu'un, il est bon, il est sage. Et si je dis de Dieu, il est bon, il est sage. Quand je parle de Dieu, je porte l'attribut que je désigne par les mots bon et sage à l'absolu. C'est cela la voie d'imminence ou c'est la voie d'excellence. Si je dis que quelqu'un est bon, ça veut pas dire qu'il est bon absolument pas. Cela veut dire que, alors que beaucoup de gens sont méchants, là j'ai affaire à quelqu'un qui est meilleur que d'autres. Bon, mais c'est encore relatif, la bonté de cette personne. De même, si je parle de la sagesse de quelqu'un, je parle de la force de quelqu'un. Tandis que quand je dis Dieu est fort, Dieu est sage, Dieu est bon, je dois l'entendre de façon imminente ou je dois l'entendre de façon excellente. C'est-à-dire que je porte à l'absolu la caractéristique que j'attribue à Dieu. Quand je dis que j'attribue à Dieu, c'est faux. C'est pas moi qui attribue à Dieu cela. C'est Dieu qui, dans la Sainte Écriture, se révèle comme étant ainsi. C'est la Bible qui me dit que Dieu est sage, que Dieu est fort, que Dieu est puissant, que Dieu est ceci ou cela. Alors, voyez-vous, quand je dis dans la Bible Dieu est fort, finalement je n'entends pas l'attribut de force dans le même sens que quand je parle d'une créature. Je suis obligé d'avoir dans mon esprit une absolutisation de la force. De même une absolutisation de la sagesse, une absolutisation de la bonté, etc. Donc vous voyez bien ce que signifie l'emploi de la voie éminente ou d'excellence quand on parle des attributs de Dieu. Mais il y a la voie de négation ou encore, on pourrait dire, d'élimination. Et je suis obligé, de même que l'emprunt la voix d'éminence des gênants, d'emprunter quand je parle des attributs de Dieu, la voie de négation ou d'élimination. C'est-à-dire que quand je parle de tel arrêté de Dieu, de telle vertu, de tel attribut de Dieu, je dois nier ou je dois éliminer tout ce que cet arrêté, cette vertu, comporte dans la créature d'imparfait ou de limité. Autrement dit, je ne prends cet attribut que dans ce qu'elle exprime de réalité positive et non pas de ce qu'elle peut comporter de réalité négative. Écoutez, je vais prendre une série d'exemples pour vous montrer ce que je dis. La Bible nous dit que Dieu est Père. En ce sens que toute créature, je ne parle pas de Père au sens de la personne de la Trinité, je parle de Dieu comme Père, en ce sens que Dieu est le Créateur de toutes choses et qu'il veille sur toutes choses. Alors on nous dit que Dieu est Père, on nous dit que Dieu est berger, on nous dit que Dieu est roc, on nous dit que Dieu est source, etc. Vous voyez d'ailleurs c'est plus curieux parce que on compare Dieu aussi bien à un être humain, un père, un berger, qu'à une réalité d'ordre minéral comme le rocher ou comme l'eau. Bon. Seulement, prenez par exemple un berger. Surtout un berger des anciens temps. Ben, le berger des anciens temps, c'était quelqu'un qui était déjà son troupeau. D'accord. Mais je dirais, c'était aussi quelqu'un d'assez ignorant. C'était quelqu'un souvent d'assez crasseux. Or, bien entendu, quand je prends l'attribut, parce que c'est l'attribut aussi, on ne comprend que les adjectifs comme attribut. Dieu est berger, comme Dieu est fort, comme Dieu est sage, Dieu est berger. Et bien, à ce moment-là, je suis obligé de nier ou d'éliminer tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans l'idée de berger. Et c'est la même chose. Dieu est mon rocher. Dieu est rocher. Bon, mais attention, c'est une manière de même que dire que Dieu est berger, c'est dire que Dieu veille sur l'univers comme sur son troupeau. Qu'il veille sur tout ce qu'il a créé, qu'il garde, qu'il protège ce qu'il a créé. Bon. Quand je dis Dieu est rocher, je dois aussi procéder par voie de négation et d'élimination. Je dois éliminer, par exemple, un rocher, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose de mort, c'est quelque chose de dur. Mais bien sûr, tout ça, par voie de négation et d'élimination, je les garde. La seule chose que je garde, c'est que un rocher, c'est ce qui tient. Un rocher, c'est ce qui est seul. On peut s'appuyer sur un rocher. On ne risque pas de s'effondrer. Si je bâtis sur le sable, disait Jésus, eh bien, toute ma maison sera emportée. Il faut bâtir sur le roc. Il faut bâtir sur Dieu. Parce que si on bâtit sur Dieu, ça c'est seul. Alors vous voyez que la voie de négation ou d'élimination aussi au sujet d'un attribut de Dieu, d'éliminer tout ce que cet attribut peut avoir quand il s'agit de créatures, de négatif. Alors donc, je nie le négatif, je nie le négatif, j'élimine le négatif. Négation ou élimination, on pourrait presque mettre entre parenthèses, du négatif. Et au fond, on ne garde qu'une idée positive. Et quand on garde une idée positive, on porte cette idée positive à l'éminent, à l'excellent, à l'absolu. Vous voyez pourquoi les deux voies ne sont pas deux voies opposées ou deux voies vraiment différentes. Ce sont deux voies qui se complètent. Il faut, à propos de chaque absolu, à la fois à chaque attitude, à la fois le porter à l'absolu,
et en même temps nier et rejeter tout ce que l'attribut en question peut comporter de négatif s'il s'agissait des créatures.
Alors, je pense que c'est... Alors, je vais vous donner une petite citation qui est tirée de Bonaventure. Vous savez qu'il y a deux grands théologiens au XIIIe siècle, c'est Bonaventure et c'est Thomas d'Aquin. Et je crois, si vous pouvez lire Thomas d'Aquin, Kerchonu en a parlé hier soir, ou si vous lisez que Bonaventure, vous pourrez souvent y trouver des choses excellentes. Ce sont deux très grands théologiens chrétiens. Alors, je vous donne les dates de Bonaventure, 1221-1264. Alors voilà la citation de Bonaventure. De même que toute créature glorifie Dieu, de même tout nom attribué aux créatures peut glorifier Dieu, et cela afin que celui qui est si glorieux qu'un seul nom ne peut suffire à lui rendre justice, car il excelle tout nom, voilà la voie d'excellence, ne peut suffire à lui rendre justice, et qu'il peut être et doit être glorifié par tous les noms. Par tous les noms, ça veut dire que, regardez, si vous, je ne sais pas si quelqu'un a essayé de faire ça, de relever dans la Sainte Écriture tout ce qui est attribué à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, je le crois. Oh, peut-être, vous savez, mais c'est un travail fini. Chaque fois qu'on trouve un adjectif, chaque fois qu'on trouve un adverbe, chaque fois qu'on trouve un nom accolé au nom de Dieu, mais c'est formidable que j'y aurais, je ne sais pas, c'est peut-être plusieurs centaines de choses. Si vous voulez, les traits de caractère qui peuvent nous aider à avoir une idée un peu vraie de Dieu, dans la Bible, c'est quasi innombrable. Il y en a des tas. Et alors, vous voyez, j'ai dit des adjectifs. Comme bon, comme sage, etc. Ça peut être aussi des adverbes. Par exemple, on peut dire que Dieu nous tient fermement dans sa main, ou que Dieu agit patiemment à notre égard. Bon, alors, bien sûr, on peut ramener des adjectifs et des adverbes à des substantifs. Parce que dire que Dieu est bon, c'est parler de la bonté de Dieu. Dire que Dieu agit patiemment, c'est parler de la patience de Dieu. Donc, c'est bien qu'on peut ramener tous les adjectifs et tous les adverbes à des noms. Hein? On pourrait aussi ramener tous les noms à des adjectifs et les adverbes aussi. Et on pourrait aussi ramener tous les adjectifs et tous les noms à des adverbes. Donc, peu importe, mais si on prenait tout ce que la Bible attribue à Dieu par les adjectifs, par les adverbes ou par des noms, on serait sidéré. C'est parce qu'au fond, oui, c'est un petit peu, je comparais ça, si vous voulez, à un dessin ou à une peinture. Hein? Vous savez, s'il y a une toile, on regarde un peintre dessiner ou peindre des choses sur la toile, et bien il procède par des touches successives. Et puis quelquefois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne voit pas ce qu'il fait au départ, justement, il n'y a presque rien. Et puis alors, petit à petit, ça se précise. Et, par exemple, si vous prenez la peinture des impressionnistes, vous avez une multitude incroyable, presque de petits points qui sont posés sur la... des petits points de couleur qui sont posés sur la toile. Mais quand vous regardez l'ensemble, une fois c'est fait, alors vous voyez ce que le peintre a voulu faire. Vous avez l'ensemble. Et bien, je dirais, c'est un peu la même chose. La Bible nous donne une image, un portrait, une révélation de Dieu en accumulant au sujet de Dieu les arrêtards. Parce que nous sommes d'adjectifs, de noms, d'adverbes, et bien petit à petit, nous voyons, c'est Dieu qui, dans sa révélation, nous donne un portrait de lui-même, une image de lui-même. Si bien que la méditation de la Bible, dans la prière, et dans l'étude attentive de ce qui est dit, une étude de la Bible, peu à peu, nous permet de. Non pas de comprendre Dieu, puisque Dieu est incompréhensible, mais d'avoir une idée de Dieu, d'avoir un portrait de Dieu. D'ailleurs, vous savez qu'en grec, le mot image et le mot idée ont la même racine. Une idée, c'est une image. Une image, c'est une idée. Eh bien, la Bible nous donne une idée de Dieu. La Bible nous donne une image de Dieu. donne la Bible l'idée de Dieu que Dieu veut que nous aidons, ou l'image de Dieu que Dieu veut que nous aidons. Et alors, tous les arrêtages de Dieu, tous les traits de caractère de Dieu finissent par nous donner l'idée de Dieu. Et alors là, ça me ramène très rapidement au second commandement, qui est, vous le savez, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Et en effet, nous ne devons pas nous faire une image de Dieu. Mais nous devons recevoir l'image que Dieu nous donne de lui-même dans sa révélation. Je ne dois pas me fabriquer une idée de Dieu. Je ne dois pas me fabriquer une image de Dieu, que ce soit une image visible ou une image dans ma tête. Je ne dois pas me fabriquer l'image de Dieu. Les hommes ont la tentation toujours de se fabriquer un Dieu, de se faire une image de Dieu. Or, nous ne devons pas nous faire une image. Pourquoi? C'est parce que nous avons une image de Dieu dans l'Écriture sainte. Nous avons une image de Dieu dans Jésus-Christ. Eh bien, nous ne devons pas avoir d'autre image de Dieu que l'image que Dieu nous donne de lui-même. Hein? C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut être sûr qu'on a la vérité sur Dieu. Parce que ça, ce n'est pas la vérité que nous fabriquons, mais c'est la vérité que nous recevons. La foi reçoit l'image, le portrait, l'idée de Dieu que Dieu nous donne de lui-même, nous révèle de lui-même. Allez, vous voyez bien le point. Alors, parmi les attributs de Dieu, les théologiens, ils ont raison, distinguent, pourquoi ils ont raison, là aussi, vous voyez, de même que la distinction des attributs risque, si nous n'y prenons garde, de nous donner une fausseté si nous ne voyons pas que tout cela va ensemble parce qu'il y a la simplicité de Dieu. Alors là aussi, la distinction que je fais, c'est une distinction qui nous est utile à nous. Hein, c'est la distinction entre les attributs incommunicables. Et les attributs communicables de Dieu. Il y a les attributs incommunicables et les attributs communicables. Les attributs incommunicables soulignent la transcendance de Dieu. Les attributs incommunicables soulignent la transcendance et les attributs communicables soulignent l'immanence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Incommunicable et communicable. Ça veut dire qu'il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas communiqués à la créature et en particulier à l'homme. Tandis que les attributs communicables, ce sont des attributs qui existent de façon absolue en Dieu, mais qui peuvent exister et qui existent de façon relative en nous. Je prends un exemple de charge. Eh bien, Dieu est infini. Dieu est infini. Eh bien, l'infinité de Dieu, c'est un attribut incommunicable. Il n'y a aucune créature qui soit infinie. Même parmi les créatures invisibles de Dieu, parmi les anges, il n'y a pas d'homme infini. Parmi les créatures humaines, il n'y a pas d'homme infini. Dieu seul est infini. L'attribut d'infinité est un attribut incommunicable de Dieu. Trottons, par exemple, un attribut communicable. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la sagesse de Dieu. Bien, si vous voulez, Dieu est sage. Absolument. Tandis que Dieu. Nous ne sommes sages que rudis. Et la sagesse, c'est un attribut communicable. Alors vous voyez bien, l'infinité, par exemple, c'est incommunicable. Il n'y a que Dieu qui soit infini. Si il y avait une créature infinie, ça ne veut rien dire. Une créature infinie, ça veut dire un Dieu. Quelqu'un d'autre que Dieu serait infini, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu que Dieu. Dieu seul est infini. C'est incommunicable. Mais par exemple, la sagesse, c'est un attribut communicable. Bon, alors, non. Voilà, rapidement, pour terminer, c'est donc la seconde partie de mon cours d'aujourd'hui. Nous allons voir quelques-uns des attributs incommunicables de Dieu, et ensuite nous essaierons d'indiquer quelques attributs communicables. Alors, les attributs incommunicables de Dieu, la théologie en désigne essentiellement quatre. Les attributs incommunicables. La cité, dont je dirais donc quelques mots pour dire, parce que je n'ai pas le temps de m'étendre. L'immuabilité. L'immuabilité. L'infinité. Et la simplicité. Voilà les quatre grands attributs, traits de caractère incommunicables que la Bible nous donne de Dieu. Alors commençons par la cité. C'est un beau texte que vous n'aviez pas entendu, c'est pas concerné. La cité. Ça vient de deux mots latins en cité.
Parmi nous, nous sommes à
d'un autre.
Et nous avons vu ça
en disant les choses autrement.
Vous vous souvenez que je vous ai dit déjà, au moins pendant deux cours, si ce n'est pas plus. Et tant pis si je me répète, la pédagogie, je le répète toujours, c'est l'art de la répétition.
Alors, vous comprenez, Dieu est, nous les existons.
Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est?
Ça veut dire que Dieu est par lui-même. Je suis qui je suis, dit Dieu à Moïse dans la rencontre au buisson ardent. Je suis qui je suis. Tandis que nous ne sommes pas, nous existons. C'est-à-dire que nous tirons notre existence d'un autre.
Oui,
ça revient au même mot pour la vérité.
Je vous avais déjà parlé tout autrefois quand je vous ai dit Dieu est. Il est, je suis. Tandis que nous ne sommes qu'à cause de lui. Parce que non seulement il nous a créés, mais qu'il nous maintient dans l'existence.
Existere.
Vous avez rappelé d'où venait le mot existence. Donc,
la vie. Deuxième.
Alors, où est-ce que c'est affirmé dans l'écriture? Eh bien, c'est affirmé de main en main. Enfin, je vous donne par exemple quelques exemples. Au psaume 115 et au verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ou bien encore, au prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 18 et suivant. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image dresse-t-on de lui? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et sous des chaînettes d'argent. Oui, donc, il y a un peu plus loin, ne le reconnaissez-vous pas, ne l'entendez-vous pas, nous ne vous l'avons pas annoncé dès le commencement, n'avons-nous pas compris ce que sont les fondements de la terre, c'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, etc., il est dans les cieux comme une étoffe, et tout ça. Bon. Alors, voyez, là, c'est. Alors, autre texte, vous pouvez vérifier, Actes 17, 25, Romains 11, 33, 36, je le répète, Actes 17, 25, Romains 11, 33, 36, Apocalypse 4, 11. Deuxième vertu incognitable, l'immuabilité. Il faut faire très attention, parce que souvent, on confond immuabilité et immobilité. C'est pas du tout la même chose. Immuabilité, ça veut dire que Dieu est toujours parfaitement lui-même. Autrement dit, Dieu ne s'améliore pas, Dieu ne progresse pas, Dieu ne change pas. Dieu est là, il est toujours fidèle à lui-même. Voilà. C'est peut-être la meilleure façon de définir l'immobilité. Dieu est toujours fidèle à lui-même. Et ça encore, c'est dans la parole de Dieu à Moïse dans le buisson. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Exode 3, 4. Alors vous avez d'autres textes qui montrent bien ça. C'est Nombre, dans l'Ancien Testament d'abord. Nombre. 23-19, psaume 33-11, psaume 102-27-28, je répète, Nombre 23-19, psaume 33-11, psaume 102-27-28, et dans le Nouveau Testament, Hébreux 6-17, et Jacques 1, je me contente de lire, parce que nous n'avons pas le temps de voir, Jacques 1, 17, c'est un texte que certainement plusieurs d'entre vous connaissent, donc se souviennent. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, c'est le verset 16. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, pas de changement. Il est toujours Dieu. Absolument. Il ne change pas. Il est toujours lui-même. Oui, par contre, je suis celui qui suit,
jamais une fois entendu quelqu'un dire, donc c'est traduit par je serai celui que je serai, puisqu'en hébreu, l'imparfait, c'est un imparfait, je pense, hein. Peut aussi être traduit par un futur.
Oui, oui, mais jamais entendu. De toute façon, ça ne change rien, parce que même si on pense je serai, ça veut dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez aussi l'expression il était, il est et il vient. Vous voyez, mais ça marque, justement, que l'on traduit d'un autre, c'est toujours ce qui est marqué, c'est l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu. Et alors, comme le dit Jacques, dans ce passage que je viens de lire, Jacques 1,17, il n'y a en lui ni changement, ni l'ombre d'une variation. Troisième attribut incommunicable, l'infinité. Vous en avez déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Si vous voulez, c'est ce que traduit par exemple notre expression Dieu est l'éternel. Ou bien quand on dit de Dieu qu'il est immense. Dieu est immense, ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer. Et, si vous voulez, par rapport au temps, Dieu est éternel. Par rapport à l'espace, Dieu est immense. Et tout le temps est une goutte par rapport à l'éternité de Dieu. Et tout l'espace est un rien par rapport à l'immensité de Dieu. Alors comme texte, nous en citons deux, Job 11, 7-9, et psaume 145, 3. Et enfin la simplicité, en ce sens que Dieu n'est pas composé de parties. Mais ça, nous en avons dit tout à l'heure. Alors maintenant, je termine en vous parlant des attributs communicables. Alors vous voyez, les attributs incommunicables soulignent la transcendance de Dieu. Ça veut dire que Dieu est complètement séparé des créatures en un sens. Comme le disait Kierkegaard, c'est Søren Kierkegaard, qui était un philosophe, un théologien danois du siècle dernier. Et Søren Kierkegaard disait qu'il y avait entre Dieu et sa création, entre Dieu et nous, une différence qualitative infinie. Entre Dieu et nous, entre Dieu et le monde, une différence qualitative infinie. Ça, c'est la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu, c'est qu'il y a entre lui et la création une différence qualitative infinie. Et cependant, le même Dieu qui est séparé de nous par une différence qualitative infinie, est un Dieu qui est aussi proche de chacune de ses créatures. Il est même tellement proche à chacune de ses créatures qu'il est présent à chacune de ses créatures. Hein? Ça, c'est l'immanence de Dieu. Et ça, c'est, il faut toujours vous souvenir de ça. Il n'y a pas la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu vont ensemble. Même si notre raison n'arrive pas à comprendre ce mystère, Dieu est à la fois celui qui est infiniment séparé de sa création et celui qui est infiniment près de sa création. Ça, c'est l'immanence de Dieu. Alors, les attributs communicables soulignent l'immanence de Dieu. Et il y a en l'homme quelques correspondances de ces attributs. Oui, l'homme, d'ailleurs ça se comprend, puisque nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc il faut bien qu'il y ait en l'homme des traits de caractère correspondant aux traits de caractère de Dieu. Les arrêtages de l'homme correspondant aux arrêtages de Dieu. Alors je commence par vous citer deux textes. Le premier, c'est dans la seconde Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. Car nous tous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Hein? Nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Et il y a quelque chose de la même image, transformé en la même image. Et l'autre texte, qui est toujours dans Paul, c'est dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3. Et au verset 10, voilà, vous qui avez revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de de celui qui l'a créé. Alors essayons de voir, alors on peut tout grouper en trois points. Dieu est lumière, c'est le premier point. Le deuxième point, Dieu. La voie évidente et la voie de négation. Dieu est lumière absolument. Dieu est sainteté absolument. Dieu est puissance absolument. C'est pour ça qu'on pourrait dire Dieu est toute lumière, Dieu est toute sainteté, Dieu est toute puissance. Mais pourquoi on l'a groupé en trois chapitres? C'est parce que vous allez voir, il y a bien d'autres sous-attributs, si je puis dire, qui se rapportent à ces trois attributs communicables-là. Par exemple, j'ai parlé de sagesse. On pourrait aussi parler de connaissance. C'est pas la même chose. Il faut distinguer la sagesse et la connaissance. Quelqu'un qui a peu de connaissance peut être cependant sage. Et quelqu'un qui a beaucoup de connaissance peut être peu sage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut distinguer. Ça, ce sont des sous-attributs de Dieu et lumière. La connaissance, la sagesse, ça se rapporte, ça dépend de cette affirmation, de cette révélation Dieu et lumière. Eh bien, nous aussi, nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Les hommes sont faits pour connaître. Les hommes sont faits pour avoir la sagesse. Donc, nous avons là ce titre englobant, Dieu et lumière, nous avons des attributs différents, comme ceux de connaissance et de sagesse. Mais avec Dieu et sainteté, alors c'est bien pire. Je veux dire, c'est bien pire. Explique. Ça veut dire que quand on dit Dieu et sainteté, alors là, c'est une cascade d'attributs qui arrivent. C'est une apparence d'attributs qui dégringolent. Par exemple, la bienveillance, l'amour, la pureté, la justice, la véracité. Voilà cinq attributs différents, bienveillance, amour, pureté, justice, véracité, et qui se rapportent à cette affirmation Dieu est sainteté. Et vous savez que Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. C'est évident, Dieu est saint absolument, parfaitement, parce que nous n'aurons toujours qu'une relative sainteté et même la sainteté des bienheureux dans le ciel n'est qu'une sainteté bien relative. Même dans la perfection de cet état, par rapport à la sainteté de Dieu qui garde sa transcendance. N'oubliez pas, la transcendance et l'immanence vont ensemble. Alors vous voyez, soyez saints car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Nous sommes appelés à la sainteté. C'est-à-dire que Dieu veut que nous revêtions tous ces attributs, toutes ces vertus de bienveillance, d'amour, de pureté, de justice, de véracité. La véracité, c'est que c'est le diable qui est le père du mensonge. Et Dieu est la vérité. Et Dieu veut que nous soyons véridiques. Dieu veut que nous soyons revêtus de véracité. Bon, donc vous voyez, tout ce qui est compris dans cette seconde ligne, Dieu est sainteté. Et enfin, troisième ligne, Dieu est puissant. Alors là, cela touche à deux points de notre psychologie, la volonté et le pouvoir. C'est pas la même chose, la volonté et le pouvoir. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de pouvoir et peu de volonté, et des gens qui peuvent avoir beaucoup de volonté et peu de pouvoir. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Mais c'est compris dans l'idée de puissance.
Dieu veut tout. Dieu veut tout ce qu'il veut. Nous, vous savez, même quand nous voulons certaines choses, bien souvent, nous ne les pouvons pas. Et il y a bien des choses que nous pouvons, et puis nous ne les voulons pas. Tandis que en Dieu, la volonté et le pouvoir coexistent. Et Dieu est tout puissant, non pas au sens qu'il pourrait faire n'importe quoi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, mais c'est parce qu'il ne les veut pas. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. C'est parce que Dieu ne veut pas mentir. Sa sainteté exige qu'il ne mente pas. Donc, Dieu peut, non pas tout, mais tout ce qu'il veut. C'est pas la même chose. Dieu ne veut pas tout. Pour une bonne raison, c'est que Dieu ne veut pas tout. Il ne veut pas la sainteté et son contraire. En Dieu, il n'y a pas le oui et le non, nous dit la Bible. Il n'y a pas le oui et le non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose et son contraire. Tandis que, avec nous, bien sûr, la puissance, la plupart du temps, notre puissance, notre volonté, notre pouvoir, nous sont au service du mal. Alors là, vous avez le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains, qui illustre en quelque sorte ce que je signifie par là. Donc vous voyez, je vous ai donné un schéma global. Si vous voulez, il faut voir tous les attributs, ou plus exactement, tous les sous-attributs qui dépendent de ces attributs-là. Mais de toute façon, il y a une chose qui me gêne, c'est justement que, vous voyez, dès qu'on se met à distinguer et à décrire les attributs de Dieu, on court le risque terrible, dont j'ai parlé tout à l'heure, d'oublier la simplicité. Nous sommes tellement composés, tellement divisés, que quelquefois notre volonté s'oppose à notre sagesse. En Dieu, sagesse et volonté vont ensemble. C'est pour nous qu'il est utile que la Bible fasse ces distinctions, et donc qu'à la suite de la Bible, nous fassions toutes ces distinctions. Mais Dieu est Dieu dans sa simplicité de Dieu, dans son être tellement un qu'il est impossible de faire des distinctions réelles, de faire des séparations, de mettre Dieu en partie, en morceaux. Si bien que pour nous, pour avoir une idée de Dieu, nous sommes obligés d'accumuler un certain nombre de choses. Mais en Dieu, il n'y a pas d'accumulation d'un certain nombre de choses. En Dieu, c'est très simple. Parce que Dieu est la simplicité. C'est un de ses attributs incommunicables, ça, dont j'ai parlé, la simplicité. Alors vous voyez, c'est bon que nous étudions la Bible. Nous tracer ce portrait de Dieu avec des traits de caractère différents. Bon, nous devons recevoir tout ça, mais en pensant en même temps dans notre adoration, dans notre contemplation de Dieu, qu'en Dieu tout ça fait de mal. Qu'en Dieu, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de séparation, de distinction, de morcellement, d'accumulation. Notre Dieu est un Dieu parfaitement un. Un, non seulement parce qu'il n'y a qu'un Dieu, mais un parce qu'il est un Dieu simple. C'est nous qui sommes obligés d'entrer dans des distinctions et des visions d'attributs distincts, mais en Dieu, c'est simple. Et celui que nous adorons est vraiment un dans sa simplicité. Voilà. Alors, je vous exhorte vivement.